une production du Studio SF.
Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Encore un honneur aujourd'hui.
Un autre.
C'est souvent
honneur.
Des honneurs.
C'est des honneurs après honneurs. Et nos invités, aujourd'hui, on reçoit le commandant de l'armée, Jocelyn Paul, qui est une personne, ma foi, inspirante, ma foi. Il y a des gens comme ça, c'est ça que je dis à PH avant qu'on fasse cette intro. On a reçu Fadi Daguerre, le chef de la police. On reçoit des fois des gens qui sont des leaders de nos sociétés. Puis il y a de quoi dans leur personne qu'on reconnaît, qui sont nés pour être des leaders. Ben c'est cette personne-là, Jocelyn Paul, qu'on vient de recevoir, le commandant de l'armée, en fait partie. On a appris plus sur lui, sur son parcours, sur ce qui l'a poussé à se joindre à l'armée, ses motivations, son historique personnel, mais aussi sur le rôle de l'armée, sur à quoi ça sert, pourquoi qu'on a ça, ça a été quoi ses missions à lui, ça a été quoi en fait sur où l'armée est impliquée en ce moment. On a parlé de la Lettonie, entre autres. On a parlé de la guerre en Ukraine, les conflits internationaux avec la Russie, l'OTAN. C'est super, super intéressant pour comprendre mieux c'est quoi, un, faire une carrière dans l'armée, c'est quoi le but d'avoir une armée, à quoi ça sert encore en 2024. Grande discussion avec cet homme.
Ouais, vraiment. Puis, tu sais, il y a une carrière qui est extrêmement vaste, remplie d'apprentissage, puis ça paraît avec la façon avec laquelle il parle, de ce qu'il dit, du message qu'il transmet. Et aussi, c'est un gars qui a fait des études universitaires jusqu'à la maîtrise en anthropologie. Et il y a quand même l'enseignant derrière, derrière la personne, et ça paraît... Parce que
ça paraît,
c'est fun, ça, quelqu'un qui est capable de bien exprimer son idée fluidement. Puis ça fait que les podcasts sont vraiment super intéressants, puis qu'ils ne s'égarent pas dans un million de points. Fait que c'est vraiment facile à comprendre les
messages. Ça paraît, les gens qui ont enseigné, qui ont été forcés, je veux dire, qui ont eu à transmettre des connaissances à d'autres par la parole, finalement. Ça paraît dans comment ils s'expriment, la clarté avec laquelle ils transmettent leurs idées. Puis ça paraît quelqu'un qui a un bagage de connaissances historiques, anthropologiques, puis qui comprend le contexte dans lequel elle-même s'inscrit, comprend le contexte dans lequel le Canada, l'armée s'inscrit. Fait que c'est super intéressant de mettre... en contexte tous les sujets qu'on aborde dans le podcast.
Vraiment, vraiment. Et comme vous allez pouvoir le constater, c'est pas un hasard que M. Paul s'est rendu au grade où il s'est rendu. Donc, bon podcast.
Bonne écoute.
Merci beaucoup d'être là. C'est vraiment, vraiment super apprécié. On va juste continuer la conversation qu'on avait, en fait. On parlait des mutations dans les forces de l'armée qui nous amènent ou qui vous amènent à vous déplacer beaucoup, puis à quel point ça pouvait créer de la résilience dans les familles et tout. Et vous parliez de vos enfants qui ont vécu rapidement à l'extérieur du pays. Moi, j'étais allé pour la première fois en Europe cette année.
D'accord.
Puis je regrette de ne pas être allé avant. Je regrette que la vie n'ait pas fait que je sois allé avant, parce que tu réalises qu'au final, on est juste une petite place dans le monde. Là.
Absolument. Ouais. Écoutez, les carrières militaires, évidemment, c'est très exigeant pour les membres, nos hommes et nos femmes en uniforme. Mais évidemment, les enfants aussi vivent un peu les contre-coups des multiples mutations. Mais ceci étant dit, on a des gens qui sont en mesure de faire une pleine et entière carrière, souvent dans la même province, dans la même région. Mais lorsque vous montez en grade, lorsque vous avez des responsabilités supplémentaires, quand vous devenez un caporal-chef, un sergent, un major, un lieutenant-colonel, il y a des attentes au niveau du leadership, il y a des attentes au niveau de l'enseignement. On a besoin d'instructeurs dans nos différentes écoles. Puis on a des écoles partout à grandeur du Canada. Donc souvent, ça vient avec un certain lot de mutations. Mais je vous dirais que ça crée des enfants très résilients, des enfants qui vont souvent œuvrer dans différents systèmes d'éducation. C'est comme moi, mes enfants ont vécu le système d'éducation du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta. Oui, c'est un défi. Changer d'une province à l'autre, parfois le curriculum peut être différent. Mais ça fait quand même des jeunes qui ont été, confrontés au déménagement, à se faire des nouveaux amis. Ça crée beaucoup de résilience, je vous dirais.
Des capacités d'adaptation.
Capacité d'adaptation. C'est souvent aussi un défi pour nos conjoints ou conjointes. Les gens doivent quitter parfois leur emploi. Moi, mon épouse est orthopédagogue de formation. Et puis après plusieurs mutations, après avoir changé de commission scolaire, appliqué, etc., des positions, on en est venu à la décision familiale qu'elle allait arrêter là, de travailler. Mais c'est un choix qu'on avait fait ensemble. Mais ceci étant dit, la grande majeure partie des gens, les deux sont capables d'avoir souvent des carrières de front. Fait qu'on essaie de conjuguer ça. On essaie toujours de répondre au service de nos gens, au service de nos membres. Parce que vous savez, on le voit dans les médias constamment, on a une population qui est vieillissante. Non seulement au Québec, mais je vous dirais au Canada, mais également en Occident.
Dans tous les pays industrialisés.
Absolument. On a des populations qui sont vieillissantes. Tout le monde recherche le talent. Tout le monde veut avoir des jeunes hommes, des jeunes femmes capables, etc. Donc, on est constamment en compétition, non seulement avec des autres ministères fédéraux, provinciaux, le monde municipal, mais je vous dirais le monde privé d'abord et avant tout. Donc, les forces, on essaie toujours d'offrir des conditions de travail qui sont... compétitive. Et c'est pas seulement qu'une question salariale, c'est quel est l'environnement qu'on fournit, etc. Donc, c'est pour ça que toute la question des bénéfices, la question des résidences pour militaires, etc., c'est des choses dont on entend parler souvent, parce qu'on cherche toujours à améliorer l'offre pour attirer nos jeunes hommes et nos jeunes femmes au sein de l'institution. L'armée canadienne, les forces canadiennes, évidemment, on a besoin de ce talent-là. Et puis, donc, d'avoir trop de mutations ou trop de déménagements, parfois, ça peut devenir lourd à porter pour les familles.
Oui, tout à fait.
Donc, on essaie vraiment, à travers les gérants de carrière, à travers les différentes branches qu'on a dans le service, d'offrir une offre qui est intéressante, qui est alléchante.
De minimiser ces
absolument. Puis à toutes les fois qu'on a quelqu'un qui veut quitter l'institution, ben maintenant, on s'assoit avec les gens et on leur demande, ben écoute, qu'est-ce qui te pousse vers l'extérieur? T'sais, on essaie de figurer, on essaie de trouver les causes. Parfois, c'est tout simplement des gens qui vont tout simplement dire, ben écoutez, on voulait le faire pendant une période de 4 ans, peut-être un 8 ans, puis c'est le temps de passer à d'autres choses, tout simplement. Mais l'autre chose aussi que j'ai noté au cours de ma carrière, je dirais, c'est que pour des gens comme moi qui sont dans la cinquantaine, souvent on n'a connu qu'une seule carrière, un seul employeur. Alors que la génération montante, je regarde ma jeune sœur puis mon jeune frère dans la région de Québec, eux, c'est fait plusieurs emplois qu'ils ont.
Oui, tout à fait.
Donc,
c'est de plus en plus la réalité maintenant, j'ai l'impression.
Absolument. Il y a plus de fluidité, il y a plus de mobilité, je crois, dans la main-d'œuvre.
Oui.
Donc, je ne vous dis pas que c'est bon, que c'est mauvais. Je dis simplement que c'est différent. C'est une observation, c'est différent. Mais nous, au sein de l'armée, au sein des forces canadiennes, on doit en prendre note. Pour tenter, évidemment, là, d'avoir une offre qui est compétitive.
Ouais.
Ce serait intéressant de connaître un petit peu plus votre parcours à vous, en fait. Là, des débuts, qu'est-ce qui vous a attiré vers les forces canadiennes? Puis ça a été quoi, justement, la suite des événements à travers, peut-être, on parlait des mutations à travers les déplacements, mais à travers juste aussi les différents grades de l'armée pour finalement devenir le commandant de l'armée. C'est quoi ce parcours-là, finalement?
Écoutez, ça n'a vraiment pas parti au tout début là, vers une carrière militaire. Donc, je suis allé à Chicoutimi. J'ai fait mon baccalauréat en histoire à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et puis, à l'époque, comme
vous
étudiant...
Vous parlez un bleuet en ce moment. Né à Chicoutimi, oui, grandi
voilà.
À Chicoutimi.
Fait que j'ai adoré les années, les 3 ans que j'ai passé à Chicoutimi. Mais moi, je me destinais vraiment plus vers une carrière dans le monde de l'enseignement. Et puis, l'été, comme étudiant, je travaillais pour Parc Canada. Donc, on m'avait envoyé à l'île du Prince-Édouard pour apprendre l'anglais. Et le deuxième été, on m'a envoyé à Churchill dans le nord du Manitoba, là où on voit Prince of Wales Fort et puis les ours polaires qu'on voit souvent dans les médias. Donc moi, l'été, je travaillais pour Parc Canada, j'étudiais en histoire. Et là, tout à coup, j'ai un ami du lac Saint-Jean, qui, lui, était dans les cadets. Et puis, j'y disais que je m'étais toujours un peu intéressé à la question militaire, etc. J'avais un intérêt pour ça. Et ils m'ont invité à me présenter au régiment du Saguenay. Et je suis allé là un mardi soir. Je lui ai dit, écoutez, je serais peut-être intéressé par l'armée. Je me suis assis avec le commandant adjoint du régiment. Il m'a posé quelques questions. Et finalement, il m'a dit, bon, mais écoute, reviens dans 2 semaines et puis on va regarder ce qu'on peut faire. Fait que c'est arrivé un peu par accident. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, je vais essayer ça pour un été. Et dans le pire des cas, je retournerai par Canada. Et puis, par la suite, j'ai commencé ma maîtrise à l'Université de Montréal. Et là, j'ai continué à servir comme réserviste, donc un militaire à temps partiel. Essentiellement, ouais. C'est l'été, si tu veux travailler à temps plein, on va te trouver quelque chose, on va te donner de la formation. Et pendant le reste de l'année, on travaille les week-ends, on fait de l'entraînement, etc. Donc, j'étais un réserviste.
Dans la réserve, juste pour faire on va faire des mini-parenthèses à certains endroits dans l'histoire, là.
Ouais.
La réserve, en fait, c'est... À quoi est-ce que ça sert concrètement? Parce qu'on a un bon ami à nous qui était dans la réserve, qui, à chaque week-end, pendant, je pense, toute sa formation en médecine à l'université, était dans la réserve.
Ouais.
À quoi ça sert et qu'est-ce que c'est concrètement?
OK. Donc, au sein des forces canadiennes, au sein de l'armée de terre, on a différentes organisations. Donc, on a les militaires à temps plein. Et on a nos militaires à temps partiel, nos réservistes. On a 2 catégories de réservistes. On a ceux qui font partie de ce qu'on appelait autrefois la milice, la première réserve. Et on a les rangers qui vivent dans les régions éloignées, ceux qui ont le chandail rouge. Donc, les régiments de la réserve, ce sont des régiments qui remontent pour la plupart d'entre eux à la Première Guerre mondiale. Donc, c'est des régiments qui avaient été levés pour les grands conflits. Et à travers les différents conflits, c'était vraiment des régiments locaux. Voyez-vous, il y avait à l'époque le régiment de Saint-Hyacinthe. Donc, chacune des petites communautés, il y avait le régiment du Saguenay, qui porte encore le nom régiment du Saguenay. Donc, les gens dans les différentes régions du Canada avaient créé des unités de militaires à temps partiel. Et puis, donc, le but des régiments de milice, c'est évidemment de faire de l'entraînement, d'être prêt, mais ce sont des soldats à temps partiel que l'on utilise pour des opérations domestiques ou des opérations expéditionnaires. Donc, si vous avez des feux de forêt, vous avez des inondations, on va lancer des soldats, les gens ne le voient pas nécessairement, parce qu'ils voient seulement que des uniformes verts. En réalité, à travers tous ces uniformes verts-là, on a souvent un certain pourcentage de réguliers et de réservistes. Donc, nos réservistes, l'été, lorsqu'ils sont étudiants, sont très disponibles. Fait qu'on cherche toujours à leur trouver des emplois à temps plein. Et puis, lorsqu'on est un peu plus âgé, souvent, lorsqu'on est des réservistes, on a des familles, on a des employeurs, on a une carrière à temps plein dans le monde civil, parfois, on peut faire des déploiements à l'étranger, mais aussi au Canada. Et là, on peut avoir des ententes avec les employeurs. Donc, souvent, les employeurs vont dire, écoute, oui, tu vas prendre un congé sans solde, ça va te permettre de faire un tour en Lettonie ou un tour à l'étranger pendant une période de 6 mois. Donc, la réserve, pour nous, au sein de l'armée de terre du Canada, c'est un pilier essentiel. On a plus de 20 000 réservistes à temps partiel d'un océan à l'autre. Donc, on sollicite nos réservistes constamment lorsqu'ils ont du temps à nous offrir. Ça permet de compenser parfois pour le manque de personnel, mais ils sont aussi les porteurs d'une fière tradition. Et puis, tu sais, je parlais de la Première Guerre mondiale, etc., mais l'origine fondamentale des régiments de milice remonte à l'époque coloniale. À l'époque du régime français, à l'époque du régime anglais, il y avait des régiments de milices qui étaient levés. On peut penser, entre autres, aux Voltigeurs de Québec, tu sais, qui ont été très impliqués là, pendant la guerre de 1812, par exemple, donc dans la région de Québec. Donc, c'est les porteurs d'une longue tradition historique. La plupart des régiments, plusieurs, pas la plupart, mais plusieurs des régiments de milices, en fait, précèdent les unités de la force régulière.
Okay.
En l'occurrence, le Royal 22e Régiment a été créé là, en 1914, au début de la Première Guerre mondiale, mais on a amalgamé des gens qui provenaient de plusieurs régiments de milice ou de la réserve ensemble. Donc, c'est ça le but là, des réservistes. Donc, il y a des gens comme moi qui ont commencé parfois comme réservistes, qui ont fait 2, 3, 4, 5 ans, qui ont décidé par la suite d'y aller à temps plein comme membres réguliers. On a parfois des réguliers qui vont faire quelques années dans la force régulière, mais qui veulent continuer à servir, qui vont à ce moment-là joindre la première réserve. Mettons, quelqu'un vient, je ne sais pas, de la région de Laval, il décide de quitter la force régulière, il a fait quelques années à Valcartier. S'il veut continuer à servir, il peut se joindre là, au bataillon du Royal 22e qui est à Laval à temps partiel. Mm-hmm. Donc, c'est un peu la raison d'être de la première réserve. À temps partiel, qu'on peut activer au besoin. On peut offrir des opportunités d'emploi à temps plein si les gens le désirent, au Canada et aussi à l'étranger. Mm-hmm. Donc, c'est un pilier fondamental que je vous dirais au sein de l'armée de terre du Canada. C'est essentiel.
Donc, pendant votre maîtrise, vous êtes dans la réserve.
Oui, je suis à ce moment-là, j'ai déménagé à Montréal pour faire ma maîtrise à l'Université de Montréal. J'ai joint le régiment de Maisonneuve. Mm-hmm. Et suite à ça... c'était là, l'enseignement. J'étais chargé de cours au Cégep. J'ai fait une charge de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et là, je suis arrivé un peu à un parcours, un carrefour, en fait, dans mon parcours. Ouais. C'était, si je veux enseigner à temps plein, est-ce que je commence le doctorat? J'avais 23, 24 ans.
Toujours en histoire?
Toujours en anthropologie.
Anthropologie.
Et j'ai fait le bac en histoire, la maîtrise en anthropologie, en ethno-histoire. Et puis, là, je suis arrivé un peu à un carrefour. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Est-ce que je me lance dans le doctorat? Un autre 4-5 ans?
Fait
que là, C'était vraiment un projet d'envergure. Et au moment où j'étais en train de jongler avec tout ça, il y avait un petit creux dans le recrutement à l'époque au sein des Forces armées canadiennes. Il manquait d'officiers au sein du Royal 22e Régiment. Fait qu'il y a une opportunité qui s'est présentée. Puis là, j'ai eu une discussion avec mon épouse. Puis je lui ai dit, écoute, j'ai toujours aimé ça, c'est le fun, c'est passionnant. Est-ce qu'on fait un transfert? Mais à l'époque, j'avais 24 ans. Donc, c'était clair dans mon esprit que je ne faisais pas ça seulement que pour 5 ans.
Mm-hmm.
Ou 8 ans. Ouais. C'était déjà clair dans mon esprit que c'était une carrière. Et à l'époque, une carrière pleine et entière pour avoir droit à une pension, c'était 20 ans. Mm-hmm. Donc, j'avais dit à mon épouse Lynn, « OK, si je rentre dans la régulière, prochaine discussion dans 18 ans.
Mm. »
Je savais un peu dans quoi je m'embarque.
Ouais.
On parle pas d'ici là.
Et voilà.
Un mot.
C'était clair que dès le départ, là, ça prenait le support des deux parce que je savais un peu de ce dans quoi je m'embarquais. Mais écoutez, mon objectif à l'époque, moi, c'était tout simplement de commander un peloton. J'avais espoir d'être en mesure de commander une compagnie. Une compagnie, là, c'est un groupe d'entre 90 à 130, 135 personnes.
Mm-hmm.
Donc, vous avez une section qui est menée par un sergent. Vous avez une douzaine d'individus. Vous avez un peloton qui est mené par un lieutenant ou un capitaine qui comporte environ 35 individus environ. Et après, vous prenez trois pelotons ensemble. Et ça vous donne une compagnie.
Mm-hmm,
donc, entre 90 et 130, 135. Et quand vous prenez plusieurs compagnies...
La compagnie est menée par...
Un major. Et puis, il est appuyé par un adjudant-maître, mm-hmm. ce qu'on appelle un sergent-major de compagnie. Et ensuite, vous prenez trois ou quatre compagnies, vous les mettez ensemble, vous avez un bataillon.
OK.
Et puis, un bataillon, vous pouvez avoir entre 400 jusqu'à 700 personnes. Et lorsque vous prenez un bataillon...
Qui est mené par
un lieutenant-colonel qui est appuyé par un adjudant-chef. Et lorsque vous rajoutez des véhicules blindés, vous rajoutez des canons, vous rajoutez des ingénieurs de combat, là, vous avez ce qu'on appelle un groupement tactique. Un groupement tactique canadien, ça représente environ entre 900 et 1200 personnes. Et je vous donne toujours des chiffres qui sont un peu vagues, parce qu'évidemment... On est sujet aux gens qui sont disponibles, mais dépendamment de la mission qu'on va s'apprêter à faire, on va toujours ajuster un peu l'établissement qu'on veut utiliser. Mm-hmm. Fait qu'on a une certaine flexibilité. Mm-hmm.
Donc vous disiez, si j'ai mon bataillon, puis finalement je suis un major, je vais avoir fulfilled, comment on dit ça en français?
On va accompli
mon objectif.
Là, et voilà. Moi, ce que je voulais vraiment, ce que je m'étais donné comme objectif, c'était de commander une compagnie comme major. Moi, je voulais vraiment atteindre ça. C'était comme l'objectif désiré.
Un objectif de carrière, là, complet.
Genre, absolument. J'avais pas vraiment au tout début d'aspiration. Je m'étais pas dit « je vais atteindre le grade de lieutenant-colonel, je veux commander un bataillon, etc. » Et en fait, j'ai un de mes anciens patrons qui m'avait déjà dit « Oui, t'as un certain talent, mais comme t'es rentré après de 25 ans, l'âge va jouer contre toi. »
OK.
Parce que toutes les étapes se font en termes de temps, habituellement.
Et voilà, tu sais. Fait qu'il y avait des idées préconçues à l'époque où, bon, tu rentres à 18, 19, 20 ans, et puis là, tu es sur un calendrier, là. Puis si tu veux atteindre tel grade, tu as besoin de tant d'années. L'expression qu'on utilise dans les rangs, c'est dire « tu vas manquer de gaz
mm-hmm. ». OK.
Fait qu'il y a des gens qui m'avaient dit « oui, mais tu es rentré tard, ça va jouer contre toi ».
Ouais.
Et voilà. Je commence dans l'armée canadienne maintenant.
Ouais, c'est ça.
Mais le point...
Mais comment est-ce que ça... excusez de vous interrompre. Comment est-ce que on bypass, si on veut, le temps, le calendrier? Là.
Écoutez, les gens en uniforme, on n'aime pas couper les coins ronds, mm-hmm. comme on dit. Ce qu'ils ont fait avec moi, mais tous les patrons que j'ai eus, c'est que j'ai fait pas mal tout, mais je l'ai fait rapidement. Donc, écoutez, ben, premièrement...
Un petit vite, là.
Ben, genre, c'est ça, là. Mais écoutez, j'ai eu la chance, par contre, là, d'être commandant de peloton pendant 3 ans. J'ai eu 3 pelotons différents. Et ça, ça m'a donné une base, ça m'a enraciné dans l'institution, ça m'a donné une base solide. Puis après ça, j'ai fait tous les jobs. T'sais, j'ai été commandant adjoint de compagnie, j'ai été capitaine adjudant, j'ai été commandant de compagnie d'infanterie, j'ai été commandant de compagnie de service. Mais au lieu de faire ça pendant 2-3 ans, je le faisais genre pendant 1 an ou 2 ans. Quand je quittais le bataillon pour aller dans des positions d'état-major, au lieu de partir pour 3-4 ans, on m'envoyait à l'extérieur des fois pendant 2 ans et on me ramenait. Mm-hmm. Donc, on m'a comme accéléré un peu, si mm-hmm. on veut. Mm-hmm. Mais dans ma tête à moi, il était impératif de faire toutes les tâches.
Ouais.
Parce qu'il n'y a personne au sein de l'organisation qui est intéressé à se faire dire « on sait bien, tu as eu des passe-droits, mm-hmm. on a déroulé le tapis rouge devant toi, etc. » Je pense que chacun d'entre nous, dans notre fort intérieur, on veut vraiment s'assurer qu'on fait tout comme tout le monde l'a fait.
Ouais.
Et puis, mais j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui ont veillé au grain, j'assume, là, qui m'ont permis là, d'être peut-être un petit peu accéléré.
Mm-hmm. Il y a des gens qui ont vu en vous quelque chose... qui se disait, ça pourrait être un leader intéressant.
On va peut-être, il faudrait ouais. peut-être leur poser ouais, la question. Ouais, ouais. Mais voyez-vous, la chose aussi qui est importante à considérer, c'est que l'âge n'est plus vraiment un facteur de discrimination.
Ouais.
Au même titre que le sexe ne devrait pas être un facteur de discrimination. Au même titre que l'orientation sexuelle, ça n'est pas un facteur de discrimination. Tout ce qu'on veut, c'est des gens qui sont prêts à servir, des gens qui sont disposés à faire partie de l'équipe, des gens qui proviennent de tous les horizons, des gens qui sont des francophones de souche, des gens dont les parents ou les grands-parents immigrent au Canada, qu'importe. Mm-hmm. Je veux dire, les forces canadiennes, on se doit d'être le reflet de ce que le Canada est. Et puis, écoutez, on enroule nos gens dans nos communautés, n'est-ce pas? Mm-hmm. Les gens qui font partie des forces armées canadiennes, ben, ils viennent de Montréal, ils viennent de Québec, ils peuvent venir de Saint-Hyacinthe. On a des gens qui viennent de l'Abitibi, on en a qui viennent du Saguenay, du Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord. Ouais.
C'est nos cousins, nos oncles, c'est pas un autre monde des gens déconnectés de la société.
Exactement. Et notre institution, j'aime le rappeler constamment, l'institution est le reflet de la société.
Mm-hmm.
Ceci étant dit, écoutez, l'institution n'est pas parfaite. On a parfois des défis, on va les confronter, etc. Mais collectivement, on travaille vraiment à faire en sorte qu'on ait un milieu de travail qui est intéressant, que les gens on veut que les gens joignent mm-hmm. et on veut que les gens demeurent. Les forces armées... C'est l'endroit où le « nous », c'est l'endroit où l'équipe doit prédominer. Mm-hmm. Et voyez-vous, la somme de toute l'équipe, c'est un multiplicateur de force. Lorsque vous êtes dans une section, lorsque vous êtes dans un peloton, dans une compagnie, vous êtes vraiment tissé serré. Vous pouvez avoir 10 individus qui sont seuls, ou vous pouvez avoir une équipe de 10. L'équipe de 10 va vraiment livrer la marchandise. Donc, les leaders à tous les niveaux, on doit toujours s'assurer que l'équipe est tissée serrée, comme on dit là, en bon québécois, que les gens ont vraiment le sentiment de veiller les uns sur les autres. Et ça, c'est le message qu'on veut toujours colporter auprès de nos gens. Et puis, donc, l'esprit d'équipe, et on a beaucoup de jeunes qui apprécient ça. On a beaucoup de jeunes qui vont joindre l'institution qui aiment l'encadrement, le désir d'appartenir. L'être humain, à mes yeux, est un être social.
Mm-hmm. Tout à fait.
On recherche des contacts avec d'autres êtres humains. On recherche des groupes auxquels on veut se greffer. Le sentiment d'appartenir, c'est essentiel. Et c'est un peu ça que l'uniforme représente. Ouais. Voyez-vous, dans mon cas, je veux dire, j'aime le rappeler souvent dans mes interventions, j'ai la chance d'appartenir à plusieurs équipes, à plusieurs groupes. Donc, évidemment, j'ai ma famille biologique dans la région de Québec. J'ai ma communauté autochtone à Wendake. J'ai ma communauté du Royal 22e Régiment. J'ai la communauté de l'armée de terre, la communauté des forces armées canadiennes. Je me suis fait des amis pour la vie.
Tout à fait.
Au cours de ma carrière, j'ai des amis militaires d'un océan à l'autre, dans toutes les provinces. Donc, j'ai la chance, comme être humain, d'être associé à différents groupes de personnes.
Mm-hmm.
Voyez-vous, il y a deux semaines, j'étais en Allemagne. On avait une réunion de tous les commandants des armées de l'OTAN. Et là, j'étais avec mes confrères, la Suède, la Norvège, mon confrère qui commande l'armée britannique, le commandant de l'armée américaine. C'est une autre communauté. Donc, moi, c'est ça qui m'anime. C'est ça qui a fait en sorte, probablement, que je suis demeuré pendant une pleine carrière, si on veut, au sein de l'armée canadienne, l'équipe. Au même titre que j'adorais faire partie de l'équipe de hockey quand j'étais plus jeune.
Ouais,
c'est un peu la même chose. Ouais.
J'ai une question qui va peut-être paraître stupide, mais je pense que je porte une question que beaucoup de gens portent.
Ouais.
Quand on parle de l'armée, nous, tu sais, comme je disais, moi j'ai des amis qui sont dans les forces, j'ai côtoyé ces gens-là. J'entends ce que vous dites de sentiment d'appartenance, de vouloir servir, ça a l'air quand même trippant et souvent excitant comme emploi. Mais la question plus peut-être fondamentale, puis je vais la poser pas parce que je doute de la réponse, mais pour essayer de comprendre à quoi ça sert.
Oui.
Parce que servir.
Servir quoi? Servir
quoi? Servir qui?
Pourquoi?
Servir comment? Puis pourquoi servir? C'est peut-être. Je suis sûr que c'est une question que beaucoup de gens ont quand on voit, évidemment, tu sais, on voit le budget qui sort, on voit l'argent qui va dans les forces de l'armée. Absolument. On fait OK, il y a beaucoup d'argent. Tu sais, la question par rapport à la réserve que je posais tout à l'heure, par rapport à notre ami à l'université, lui. Il s'entraînait les week-ends, dans le fond. Son travail, c'était de l'entraînement. Puis là, tu dis, OK, mais de l'entraînement,
pourquoi?
Pourquoi? Tu sais, au final, parce qu'on le paye pour s'entraîner, mais pour faire quoi? Ouais. Fait que c'est vraiment une question large, mais c'est une question, je pense, qui est nécessaire. Et je pense que vous êtes la meilleure personne pour y répondre. Tu sais, je pourrais pas poser cette question-là à une meilleure personne, j'ai l'impression. Là.
On va y répondre.
Ouais.
Écoutez, je pense que la meilleure manière de regarder ça, c'est de se dire que c'est une police d'assurance.
OK.
Vous savez, personne ne veut avoir une inondation.
Personne ne veut faire de réclamation d'assurance.
Personne ne veut faire de réclamation d'assurance. Personne
c'est une des pires choses, un des pires sentiments au monde.
Mais vous savez, lorsque vous avez un incendie et que vous avez perdu vos biens ou que la maison est en partie détruite, vous êtes très heureux d'avoir cette police d'assurance vie. Ou cette police d'assurance. Là,
quand elle ne trouve pas des manières de se défiler de
ne voilà,
ouais. pas payer. On espère que l'armée ne fera pas faire ça.
Ouais, c'est ça. On a besoin de l'armée.
Non, on ne peut pas à cause de tel article dans le contrat.
En fait, c'est un très bon point. Vous savez, lorsque vous joignez les forces canadiennes, lorsque le gouvernement nous donne une mission, on la fait.
Ouais.
C'est pas le début d'une discussion. L'armée s'en va là, l'armée s'en va là. Donc, nous, notre devoir en tant que militaire, c'est de mettre en place, si on veut, les mandats que le gouvernement nous a donnés. Vous savez, les forces canadiennes ne décident pas de leur propre chef de se déployer ou d'aller quelque part.
C'est le gouvernement.
Nous sommes un outil qui appartient au gouvernement.
Ouais.
On est un outil dans la boîte d'outils. Vous savez, sur la scène internationale, il y a un petit acronyme en anglais, je pense, qui résume assez bien la situation. On appelle ça le DIME. Le D, le I, le M et le E. Donc, les États vont toujours se servir de ça pour gérer leurs affaires sur la scène nationale ou internationale. D, c'est pour la diplomatie. Le I, c'est pour l'influence, les médias sociaux, les systèmes d'information, la presse. Le M, c'est pour le militaire. Et le E, c'est pour l'économie.
Mm-hmm.
Donc, un État occidental, une démocratie occidentale, lorsqu'il s'agit de trouver sa place sur la scène internationale, on a différents outils. On peut faire de la diplomatie,
mm-hmm.
on a des relations économiques, on a des accords de libre-échange qui nous permettent de garantir notre sécurité économique. Et parfois, malheureusement, les États ont besoin d'avoir le M, l'outil militaire, pour veiller à la sécurité et à la santé de leurs concitoyens. Vous savez, les États nationaux ont une responsabilité d'offrir de la sécurité. Et là, je ne parle pas de militaire, je parle de sécurité au sens large.
Oui, dans tous ces aspects.
Sécurité sociale, sécurité économique, mais aussi sécurité physique.
Mm-hmm.
C'est pour ça qu'on a les policiers, on a les pompiers. Le monde de la sécurité, c'est un environnement qui est très, très, très vaste. Et les forces canadiennes et l'armée de terre ont un rôle à jouer dans ce domaine-là.
Mm-hmm.
On va souvent dire que l'armée de terre ou les forces canadiennes, on est la force de dernier recours. Évidemment, on souhaite que sur la scène internationale, que les États soient en mesure de gérer leurs différends à travers l'ONU, à travers les institutions
à travers internationales. D'autres moyens.
Et voilà. Tout le monde désire ça comme citoyen. Donc, la diplomatie. On s'attend à ce que les différends puissent être réglés sur la scène économique, etc. Mais malheureusement, il arrive parfois des situations où certains États vont avoir recours à la force. Et on le voit présentement avec mmh. l'agression de la Russie contre l'Ukraine.
Mmh.
Donc, un pays a décidé d'envahir son voisin
mmh.
pour la deuxième fois.
Ouais.
Et puis...
chose que moi, j'imaginais plus possible, on dirait, dans notre époque actuelle. On dirait que la guerre, dire un pays, on attaque un autre pays, ouais. on dirait que ça sonne comme une autre ouais. époque, un ouais. autre siècle. Tu sais, puis là,
absolument.
C'est comme, que ça existe encore, c'est quand même...
Vous savez...
Pour des enjeux de territoire, en ouais. plus, moi, c'est comme... Ben, supposé enjeu de territoire, peu importe les motivations derrière, ouais. c'est quand même exactement quelque chose que comme une croisade. Là,
ouais.
Ouais. Comme ça n'a pas de... On dirait que ça pouvait plus exister, mais bref.
Après la Première Guerre mondiale, après la Grande Guerre,
ouais.
l'humanité, l'Europe, les pays occidentaux, on dit plus jamais.
Mm.
Plus jamais on devrait avoir une guerre. Ça a été une boucherie extraordinaire.
Ouais.
Terrible. Des millions de personnes qui ont perdu la vie. Et c'est à ce moment-là, entre autres, qu'on a décidé d'aller de l'avant avec la Société des Nations, qui est un peu l'ancêtre là, des Nations Unies. Les gens, les leaders de l'époque, ont tenté d'avoir des institutions multilatérales pour tenter de préserver la paix. Et ensuite de ça, bon, la période des années 30, on a vu la montée là, du nazisme. Et là, encore une fois, on a un pays qui a décidé d'en envahir ouais. un autre.
Ouais.
À la fin de la guerre, ça l'a donné un regain d'énergie. Encore une fois, aux institutions multilatérales.
Mm-hmm.
C'est comme si l'être humain n'apprenait pas de ses erreurs au fil des différentes générations. L'être humain a tendance à répéter les mêmes choses. Mm-hmm. C'est juste qu'on oublie. Et c'est la raison pour laquelle je crois que l'histoire joue un rôle tellement important dans toutes nos formations militaires. Vous savez, j'ai fait une formation de près de 2 ans aux États-Unis. Et puis, pendant la deuxième partie du programme d'études que je faisais, on a revisé, on a analysé toutes les grandes campagnes militaires depuis l'époque gréco-romaine.
Mm-hmm.
Donc, on a étudié, sur une période d'environ 2000 ans, les sources, les causes, la manière dont les opérations militaires se sont déroulées, etc. On est dans la profession de comprendre le conflit afin qu'on puisse offrir les meilleurs conseils.
Mm-hmm.
à nos leaders politiques, parce que c'est ça que les forces canadiennes font. Et la personne au sein des forces armées canadiennes qui donne des conseils militaires au premier ministre, c'est toujours le chef d'État, le chef d'État-major de la Défense nationale, le général Air. Donc moi, je suis responsable de ce qui s'appelle l'armée de terre. j'ai un collègue qui est en charge de la marine, un collègue qui est en charge de l'aviation, un autre collègue qui est en charge des forces spéciales. J'ai une collègue qui est en charge de toute la gestion du personnel. Donc, nous, les commandants de service, l'armée, l'aviation, le chef du commandement militaire, etc., du personnel militaire, on est autour de la table, on est environ une dizaine, et avec le chef d'état-major de la défense et le numéro 2, qui est le sous-chef d'état-major de la défense, le vice, comme on l'appelle en français. C'est une expression anglaise. Et on travaille avec les états-majors et à ce moment-là, lorsque le gouvernement a besoin d'un conseil sur un sujet militaire, ben, le chef d'état-major avec le ministre de la Défense nationale vont offrir des recommandations. Donc, nos gens s'entraînent. On se doit d'avoir une police d'assurance. On doit s'assurer qu'on paye notre police à tous les mois pour qu'elle demeure active, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
Donc, nous, c'est se préparer à tout genre d'événements.
Qui dépasse maintenant les conflits internationaux, puis les guerres, puis tout ça. L'armée, c'est plus que ça.
Hey, on l'a vu, écoutez, encore l'an dernier. Je veux dire, on a eu des feux de forêt d'un océan à l'autre. On a des gens du Québec, des gens de la 2e division qui ont été projetés dans les territoires du Nord-Ouest pour aider les provinces là-bas dans la gestion des feux de forêt. On vous vous souvenez tous de ce qui est arrivé pendant les inondations. Écoutez, pendant l'épidémie de COVID,
mon cousin qui est dans les forces... aller aider dans les CHSLD pendant une bonne période de temps.
Absolument. Et puis, et voilà, on a eu des militaires qui sont allés aider les personnes âgées qui avaient besoin de support dans ces résidences-là. Donc, les militaires, on doit être prêt à peu près toute forme de déploiement. On doit être prêt à livrer la marchandise de façon inopinée et inattendue. On pense toujours à être prêt pour l'impensable. Tu sais, on disait, pourquoi qu'il y a des conflits? Écoutez, on a des dictateurs, on a des leaders autoritaires dans certains pays qui ont décidé d'agresser leurs voisins. Donc, voyez-vous, donc nous, on se prépare à toutes ces contingences-là. Mais notre priorité numéro un va toujours être de veiller à la santé et sécurité de nos concitoyens au Canada.
Ouais.
La priorité numéro un des Forces armées canadiennes va toujours être sur le Canada. Ensuite de ça, notre priorité numéro deux, si on veut, c'est de s'assurer de la défense du continent avec nos voisins américains. Et ensuite de ça, on va toujours s'assurer qu'on est disponible pour aider nos alliés, donc au sein de l'OTAN ou, dans certains cas, des missions des Nations unies. Mais présentement, la grande majorité de toutes nos opérations se font vraiment par l'entremise de l'OTAN, compte tenu de l'instabilité géostratégique là, que l'on voit présentement en Europe. Donc, une police d'assurance. Une police d'assurance où on doit s'assurer que chaque dollar est optimisé, évidemment. Ouais. Et moi, mon rôle comme commandant de l'armée canadienne, c'est de m'assurer que l'armée de terre est en mesure d'offrir des soldats pour à peu près n'importe quelle circonstance. Donc, j'offre des conseils au chef d'état-major, etc. Donc, je vous dirais que d'aller aider ses concitoyens de façon domestique, c'est tellement gratifiant.
J'imagine.
Nos gens, là, comme je le disais tout à l'heure, on les enrôle dans nos communautés. Donc, quand les gens sont capables d'aider leurs concitoyens qui ont des défis, que ce soit lié à des inondations ou à des feux de forêt, là, les gens sont heureux de le faire. Ils ont le sentiment d'aider leur propre communauté. Donc, les gens recherchent ça, évidemment. Et c'est un peu aussi la même chose, je vous dirais, là, du côté des déploiements à l'étranger. Le sentiment d'être en mesure d'aider autrui, de sécuriser autrui. Je parlais tout à l'heure de défense, d'information, d'économie, l'aspect militaire, le construct, là, si on veut, du dime. Personne n'est vraiment enchanté d'être obligé de recourir à l'outil militaire, mais la réalité, malheureusement, et c'est là que l'histoire se répète à nouveau, on a des dictateurs, on a des leaders autoritaires qui ont des mains de fer sur leur société. Et ces gens-là, souvent, pour se maintenir au pouvoir, ils vont avoir une certaine rhétorique. Et c'est là qu'on voit des agressions. C'est là qu'on voit ils vont s'en prendre souvent à leurs voisins. Et c'est la raison, entre autres, pour laquelle il y a tant de pays de l'Europe de l'Est qui ont joint l'OTAN au cours des dernières années. Vous savez, on est rendu à 32 membres au sein de l'OTAN. Il y a des pays qui ont été neutres pendant de très, très longues années, voire des décennies. La Finlande a toujours été neutre. La Suède a été neutre. Mais ces deux derniers pays-là, des pays en passant qui nous ressemblent énormément, mm-hmm. hein, les pays scandinaves et le Canada, là, on ne partage pas la même langue,
ouais.
mais au niveau du mode de vie, au niveau des valeurs, quand je rencontre mes confrères de la Scandinavie, là, des amis, là. Il y a, mm-hmm. y a une connexion instantanée.
Donc, ils jouent parce qu'ils ressentent une pression puis une menace potentielle de la Russie.
Absolument. Et ils ont toujours, eux, été d'opinion que la neutralité, c'était peut-être la meilleure manière de protéger leur pays.
Ouais.
Mais là, compte tenu de l'ingression russe contre ouais. l'Ukraine, là, ils ont réalisé, oups, peut-être qu'on aurait avantage à faire partie de l'équipe.
Mm-hmm.
Et l'OTAN, je parlais de l'équipe tantôt, je parlais de la section, je parlais du peloton, de la compagnie, du ouais. bataillon. L'OTAN, c'est une équipe. Vous avez 32 pays qui ont décidé d'être ensemble, de former une équipe pour protéger un mode de vie, pour protéger des valeurs, pour protéger un espace commun contre l'agression. Ça a commencé dans les années 50. Vous savez, l'OTAN, au tout début, c'était tout petit.
Mm-hmm.
L'Europe de l'Est était encore occupée par l'Union soviétique suite à la Deuxième Guerre mondiale. Mais qu'est-il arrivé après la chute du mur de Berlin? Les pays de l'Est se sont tournés vers l'Ouest. Ils ont joint l'Union européenne, ils ont joint l'OTAN. Donc, ce désir de vivre dans une démocratie où les gens peuvent voter, les gens ont un droit de regard sur la gestion des affaires publiques, c'est quelque chose souvent que nous, on prend pour acquis au Canada, parce mm-hmm. qu'on a grandi dans ce système-là. On vit dans une démocratie où le citoyen peut s'exprimer à tous les quatre ans au niveau municipal, provincial, fédéral. Mais pour plusieurs de ces pays-là, c'est un objet de luxe auquel ils aspiraient et ils ont jugé que pour y parvenir, c'était de joindre l'équipe.
Mm-hmm.
Donc, c'est pour ça qu'on est au sein de l'OTAN. C'est pour ça que le Canada mène maintenant une brigade en Lettonie pour aider la Lettonie, qui est un pays de 1,5 million d'habitants environ, qui a une frontière commune avec la Russie. Donc, que ce soit l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, eux, ils ont seulement qu'à regarder leur livre d'histoire.
Mm-hmm.
Et ce qui est arrivé dans le passé risque de se répéter.
Ouais.
Donc, M. Poutine a été très clair sur la scène internationale. Il veut revenir à l'époque glorieuse de l'Union soviétique. M. Poutine a affirmé sur la scène publique que la pire des choses qui aurait pu arriver à la Russie, c'était de perdre tous les pays du pacte de Varsovie, qui était leur sphère d'influence. Donc, c'est un peu ça qu'il tente de faire présentement. Il a commis une agression contre la Géorgie, il y a de ça plus de 10 ans. 2 agressions contre l'Ukraine. Donc, les Lettons, les gens des pays baltes, eux, ils se voient comme on est la prochaine cible.
Ouais.
Donc, pour eux, de joindre l'OTAN, c'était la meilleure police d'assurance qu'ils pouvaient se payer afin de demeurer des pays autonomes et indépendants. Et par la suite, vous pouvez aussi voir la Pologne. La Pologne, qui a été envahie tant de l'Est que de l'Ouest mm-hmm. au cours de son histoire, a certainement avantage au niveau stratégique à faire partie de l'OTAN. Donc, c'est ça, une police d'assurance, je pense, oui, qui est coûteuse, mais ça fait partie aussi des responsabilités internationales du Canada. Vous savez, on est un pays qui est riche, on est un pays qui non seulement est un pays fondateur au sein de l'OTAN, mais on est aussi un membre du G7. Le Canada a des responsabilités sur la scène internationale, au plan diplomatique, au plan économique, mais on a aussi des responsabilités d'un point de vue défense, sécurité, militaire. Donc, c'est notre contribution. Donc, moi, comme commandant de l'armée canadienne, je vous dirais que les 2 dernières années, c'était vraiment que peut-on faire
ouais.
pour s'assurer qu'on ait la meilleure police d'assurance canadienne sur le pays de la Lettonie,
ouais.
en Lettonie. Donc, on est passé d'un groupement tactique à une brigade. Donc, c'est en train de se produire présentement. Donc, on a des gens de Valcartier qui, au moment où on se parle, sont en train d'être déployés en Lettonie.
On parle de combien de personnes, à peu près?
Écoutez, On a un plafond qui nous est donné par le gouvernement. Donc, on a des mémoires au cabinet. Bon, sans embarquer dans toutes les tracasseries, là, on a des plafonds financiers et des plafonds en termes de ressources humaines. Mais le Canada va avoir autour de 2000 personnes déployées en Europe pour les années à venir. Mm-hmm, donc, okay. On a le financement pour ça. Pour ce qui est de la brigade en Lettonie, à proprement parler, là, ça va graviter autour de 1500, 1600. On a des gens qui vont être là à temps plein. On a des gens qui vont aller faire de l'entraînement pendant une période d'un mois, un mois et demi, puis qui vont revenir au Canada. Mais voici là où c'est intéressant.
C'est déjà intéressant, d'ailleurs, mais continuez.
Mais on n'est pas seul.
Ouais.
La brigade canadienne, c'est une brigade multinationale. Donc, nous, on a le privilège, le Canada, de la mener, mais on est appuyé par l'Espagne. Mm-hmm. On est appuyé par l'Italie. On a le Danemark qui va commencer à servir avec nous cet automne. La Suède, le jour où la Suède a joint l'Alliance, il n'y a pas longtemps, ils ont dit, nous, on va aller dans l'équipe canadienne en Lettonie. Fait que la Suède, l'an prochain, ils vont nous fournir aussi un bataillon. Mm-hmm. Donc, on a environ 9 à 10 pays qui font partie de l'équipe canadienne. Mm-hmm. Et lorsqu'on regarde de l'autre côté de la frontière, il n'y a pas grand monde dans l'équipe russe. Vous savez, parfois, on a tendance à... On se regarde... Oui, on pourrait améliorer les choses, etc., ouais. comme société. Mais je vous dirais, moi, que le fait qu'on soit capable d'avoir une alliance de cette envergure-là, avec autant de nations qui ont décidé de se mettre ensemble pour veiller à leur propre santé et sécurité, ça fait juste illustrer l'importance de faire partie de l'équipe. Mm-hmm. Donc, c'est cela.
C'est quoi le quotidien des gens en Lettonie, des soldats en Lettonie en ce moment? Est-ce qu'il y a des littérales affrontements ou est-ce que c'est non. plus... Non, c'est ça.
Écoutez, la brigade canadienne en Lettonie et toutes les brigades, parce que l'OTAN a 8 brigades sur le long de l'Europe de l'Est, là, mm-hmm. donc de la mer Baltique jusqu'à la mer Noire, l'OTAN est en train de mettre en place présentement des brigades partout. Donc, c'est un outil de dissuasion. Mm-hmm. Donc, si vous voulez qu'un leader autoritaire y songe deux fois avant de faire quoi que ce soit, encore une fois, on revient au dime. Vous pouvez faire des pressions diplomatiques. Vous pouvez faire des pressions économiques. On l'a vu dans le cas de l'Ukraine.
Ouais.
Les pressions diplomatiques contre M. Poutine n'ont pas fonctionné.
Non.
Les pressions économiques, ça n'a pas arrêté les combats en Ukraine. Donc, dans leur coffre d'outils, les États occidentaux, il leur reste quoi? L'outil militaire.
Ouais.
Donc, l'art de la dissuasion, c'est de convaincre votre compétiteur de ne pas le faire, de ne pas envahir, de ne pas attaquer, de ne pas agresser. Et dans ce contexte-là, pour faire réfléchir ce leader-là deux fois, vous devez d'avoir des forces militaires qui sont crédibles et qui sont capables d'aller au combat, qui sont capables de lui infliger un revers. Quelque chose qui va faire en sorte que ce leader-là, il pense deux fois. Donc, ça, c'est notre mandat. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On a envoyé des chars d'assaut l'an dernier. On a envoyé des radars. On a déjà des centaines de véhicules blindés qui sont là-bas. On a des canons qui sont là-bas. On est une équipe de 9 à 10 pays au sein de la brigade. Et là, on envoie des militaires. Donc, les militaires, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils sont en Lettonie? Ils sont présents à des fins de dissuasion. Mm-hmm. On a de l'entraînement individuel. On fait la maintenance sur les véhicules. On fait des exercices. On fait de l'entraînement au niveau de peloton, au niveau de compagnie, au niveau du groupement tactique. Donc, c'est un outil de dissuasion. Et entre deux périodes d'entraînement, bien, nos gens vont au gymnase. Ils font du développement professionnel, etc., etc. Donc, c'est un peu la vie en garnison, comme on la vit un peu à Valcartier, où on la vit peut-être à Petawawa ou Edmonton, mais cette vie-là se passe en Europe. Parce que vous savez, pour nous, le Canada, si on doit aller à la rescousse de l'OTAN, on doit traverser l'Atlantique.
Ouais.
Donc, c'est la raison pour laquelle on investit autant de ressources dans notre équipement là-bas. Le but ultime, c'est d'avoir suffisamment d'équipement prépositionné ainsi que...
Pour juste envoyer des gens pour le couper.
Envoyer les gens en avion. Ouais. Lorsqu'on a déployé nos véhicules blindés, lorsqu'on a envoyé les chars d'assaut pour l'Ukraine, écoutez, ça a été toute une entreprise que de prendre des véhicules blindés d'Edmonton puis de les envoyer par avion. Et nos propres chars d'assaut qui sont en Lettonie, on les a envoyés par bateau. Donc, la projection de la force, c'est un défi logistique qui est énorme. Donc, c'est pour ça qu'on prépositionne l'équipement. Plus facile de prendre un avion,
ouais,
mettre les gens dans l'avion et de les envoyer là-bas. Donc, c'est un peu le but. Mais évidemment, on va avoir juste la bonne quantité de gens en Lettonie. Fait que c'est pour ça qu'on a des gens qui sont là pendant des tours de 6 mois. Certains vont faire un an. Le quartier général de brigade, les gens vont être là pour une période d'un an. Mais on a des gens au Canada qui, eux, vont être à court préavis. Donc, ils vont peut-être aller en Lettonie pour une période d'entraînement au mois d'octobre-novembre, un mois peut-être, un mois et demi. Après ça, ils reviennent ici au Canada. Et ce sont souvent ces mêmes gens-là que l'on prend pour faire de l'évacuation de ressortissants canadiens qui sont pris dans des pays en guerre civile.
Mm-hmm.
Ou ça peut être ces gens-là qu'on va déployer du côté de l'Indo-Pacifique, du côté de l'Asie pour faire dans l'entraînement là, avec des pays alliés. C'est souvent ces mêmes gens-là qui vont aller aussi en Alaska s'entraîner avec l'armée américaine,
mm-hmm,
dans le Nord. Donc, des outils versatiles. On se projette, on voit du pays, on se promène à travers le monde, on a de l'entraînement, on rencontre des alliés, etc. Et puis, après ça, ben, on retourne en garnison.
Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas... Tu sais, là, on fait du positionnement, de la dissuasion, mm-hmm, en Lettonie.
Mm-hmm.
Est-ce que le fait que l'Ukraine ne soit pas membre de l'OTAN, est-ce que c'est ce qui explique pourquoi on n'agit pas physiquement?
Et voilà.
En Ukraine, parce que
oui,
nous, on voit ça, on voit l'agression russe, puis on voit les images, on voit le documentaire 20 jours à Mariupol qui est horrible, on voit ça, puis on se dit pourquoi?
Mm-hmm.
Il me semble que si le fameux, je sais pas, ben, l'armée canadienne, oui, mais après ça, tu penses aussi au déploiement américain dans les films à la Apocalypse Now, est-ce que pourquoi on n'envoie pas cette puissance-là qui coûte des milliards de dollars à tout le monde.
Si on trouve que cette guerre-là est injuste,
c'est ça. Si on est capable de clairement se positionner moralement, tu sais, je pense qu'il n'y a personne, ou du moins très marginal, sont les gens qui sont en Amérique du Nord du côté de la Russie. Là.
Mm-hmm.
Et si on est capable de si moralement et clairement prendre position dans ce conflit-là, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'envoyer cette force de frappe en disant « faut que ça arrête ». J'imagine qu'il y a plein de raisons à ça, mais quelles sont-elles?
Écoutez, ce sont des décisions qui sont éminemment politiques.
Ouais.
Donc, nous, les militaires, on formule des conseils, mais je veux dire, à la fin de la journée, comme je le disais d'entrée de jeu, on ne peut pas, nous, les militaires, décider de se projeter dans n'importe quelle région du monde. On est toujours, évidemment, un outil du gouvernement. Mais la question que vous posez, elle est fondamentale.
Oui.
Le traité de Washington qui a créé l'OTAN dans les années 50 dit très clairement une attaque contre un pays de l'OTAN, c'est une attaque contre la famille de l'OTAN.
Mm-hmm.
Et c'est la raison pour laquelle l'Ukraine a manifesté le désir depuis des années de joindre l'OTAN.
Mm-hmm. Ouais.
Mais pour entrer dans l'OTAN, ça prend évidemment un paquet de conditions qui doivent être remplies, des conditions économiques, des conditions militaires, des conditions politiques, etc. N'entre pas dans l'OTAN qui le veut. Et c'est pour ça que le processus pour accéder à l'OTAN va souvent s'échelonner sur plusieurs années. L'OTAN, c'est d'abord et avant tout une alliance politique qui a un volet militaire.
Mm-hmm.
Les gens ont tendance à oublier ça. Donc, et c'est la raison pour laquelle souvent les gens de l'Ukraine ont manifesté le désir de joindre l'OTAN. Parce qu'ils veulent avoir la police d'assurance.
Oui, c'est exact.
Et les polices d'assurance qui sont à la disposition des États sont assez limitées. C'est soit que vous faites partie d'une alliance militaire, ou peut-être si vous détenez l'arme atomique, quelqu'un va y penser deux fois avant de vous envahir, n'est-ce pas?
Mmh.
Et puis l'Ukraine a décidé de donner ses armes nucléaires lorsque le pays est devenu indépendant. Bon, on pourrait en parler longuement. Est-ce que c'était, d'un point de vue géostratégique, la bonne décision à faire? Ça ne m'appartient pas. C'est une décision qui a été prise là, par les leaders de l'époque. Mais, donc, dans ce cas-ci, le gouvernement, l'OTAN, l'Alliance ont décidé, évidemment, de ne pas entrer en compétition directe ou en confrontation militaire contre la Russie, là. Et c'est là que les gens doivent réaliser qu'il y a ce qu'on appelle des lignes rouges. Souvent, les politiciens, les gouvernements, les nations vont dire à d'autres nations, ça, c'est une ligne rouge. Si vous faites ça, je vais réagir.
Ouais. Mm-hmm.
Donc, M. Poutine a très clairement mentionné que pour lui, une des lignes rouges, c'était si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, c'est une ligne rouge. Le signal, c'est que je vais réagir, je vais faire quelque chose. Évidemment, on ne dit jamais qu'est-ce qu'on va faire,
mm-hmm.
mais il risque d'avoir des conséquences à ça. Donc, le calcul du leadership politique présentement, c'est jusqu'où peut-on aller dans le support au sein de l'Ukraine? Et ça appartient au premier ministre, ça appartient au ministère des Affaires étrangères, etc. Mais ce que je vois présentement...
Jusqu'où qu'on peut aller dans la défense de l'Ukraine sans trop choquer la Russie. Finalement.
C'est exactement ça.
C'est une game de poker un peu tout ça. C'est parce que quand Poutine dit aussi la ligne rouge, c'est quoi la part de bluff là-dedans? C'est quoi la part de réelle
et
menace?
Voilà. On sait pas, et là, on entre dans toute la question de la diplomatie, la question des pressions politiques, la question des pressions économiques, évidemment, ça n'appartient pas à nous, les forces canadiennes.
Mm-hmm.
Nous, notre mandat dans tout ça, c'est de s'assurer que l'instrument militaire est prêt, advenant la pire des circonstances.
Mm-hmm.
Mais donc, écoutez, c'est la raison pour laquelle l'OTAN, les leaders occidentaux, gèrent la situation de façon très, très, très délicate et très, très, très délibérée.
Mmh.
Vous savez, s'il y a un incident sur la frontière de la Pologne, s'il y a des missiles ou de l'artillerie russe qui tombent du côté de la Pologne, est-ce que ça représente une agression de la Russie contre l'OTAN?
Mmh.
Donc, vous voyez un effet domino catastrophique là, qui pourrait se produire. Et c'est la raison pour laquelle... l'OTAN, nos leaders politiques, etc.
On tente d'éviter le pire.
Ouais, ouais. On a affaire avec un régime autoritaire. On a affaire avec un régime qui, évidemment, possède un arsenal nucléaire assez imposant. Merci.
Est-ce que c'est une vraie... Excuse-moi de vous couper, mais est-ce que c'est encore une vraie menace ou une vraie arme, un vrai outil de dissuasion, l'arme nucléaire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut imaginer, je veux dire, quelqu'un contempler et utiliser cette arme-là encore de nos jours?
Écoutez, c'est une arme que personne ne veut voir être utilisée. On a vu les dégâts extraordinaires que ça peut faire lorsque... Il y a eu là, les deux bombes atomiques qui ont été larguées sur le Japon. C'est un outil qui est terrible.
Ouais.
Donc, je ne peux pas présumer de ce que certains leaders pourraient faire. Mais il y a une chose que je sais, par contre, c'est que certains leaders autoritaires, certains dictateurs sont prêts à tout pour rester au pouvoir, sont prêts à tout pour rester au sommet de la pyramide. Donc, c'est pour ça qu'on se doit de faire preuve de grande vigilance. C'est la raison pour laquelle je crois que la diplomatie doit toujours là, prédominer dans tout ce dialogue-là, etc. Mais vous voyez, on n'aurait jamais pensé, je crois, il y a 5 ans, avoir ce genre de discussion-là.
Non, exact.
Voilà 5 ans, on n'aurait pas eu ce dialogue-là.
C'était plus dans le
On n'en aurait même pas parlé. Parce que c'est quelque chose qui, pour nous, appartenait au passé.
Oui.
Mais ce que je peux vous dire, moi, c'est que, bon, j'ai joint en 88, donc près de 35 ans de carrière, j'ai vraiment le sentiment que j'ai fait la boucle pendant ma carrière. Donc, j'ai joint à la fin de la guerre froide, quand il y avait le pacte de Varsovie. Je me souviens très bien quand le mur de Berlin est tombé, etc. Donc, il y a eu la fin de la guerre froide. Après ça, on a eu des épisodes où on a envoyé des troupes onusiennes dans un paquet de pays. Bon, je suis allé en Croatie en 1993, quand la Yougoslavie est en train de se fragmenter. On a eu une guerre civile là-bas. L'ONU a intervenu. Et un peu plus tard dans ma carrière, on a eu des contre-insurrections. Donc, on a été appelé à se déployer dans des pays où il y avait des groupes non étatiques qui décidaient de s'en prendre au gouvernement local. On a essayé d'amener de la paix, de la stabilité. Et là, on revient à la fin de ma carrière dans une autre forme de guerre froide. En fait, je vous dirais que ce n'est pas une guerre qui est froide, elle est très chaude, ouais. Particulièrement si vous êtes un citoyen ukrainien.
Exact. Ouais.
C'est une vraie guerre, là. Donc, en fait, le message que je voudrais peut-être passer ici aux auditeurs, c'est que les gens ne le réalisent peut-être pas parfaitement ici au Canada, parce qu'on est évidemment loin là, de l'Europe. Mais il y a un niveau présentement de tension excessivement élevé sur la scène internationale. Le risque de débordement, le risque de conflit, il est énorme. Vous avez une guerre où il y a des milliers de morts présentement aux portes de l'Europe.
Ouais.
Mm-hmm. Vous avez des combats quotidiens, vous avez des mobilisations qui ont été faites tant en Ukraine que du côté de la Russie. Vous avez des quantités astronomiques d'artillerie. Tous les outils militaires sont employés. Vous avez une guerre là, entre deux États. Une chose qu'on n'a pas vue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est pas que je veux être alarmiste, mais c'est très, très, très inquiétant.
Mm-hmm. Oui, tout à fait.
Et c'est dans ce contexte-là que l'OTAN a décidé de se retrousser les manches et d'augmenter son dispositif de sécurité pour faire en sorte qu'on peut contenir le conflit à l'intérieur de l'Ukraine pour pas qu'il y ait de débordement. Parce que s'il y a un débordement du côté de l'OTAN, nous risquons d'être absorbés, qu'on le veuille ou non. Ouais,
c'est ça, exact.
Dans un conflit de plus grande envergure. Ouais. Vous savez, on est membre de l'OTAN depuis la fondation de l'OTAN. Le Canada... Si l'OTAN entre en guerre, le Canada est en guerre automatiquement.
Ouais.
C'est pas une discussion. Là. Je veux dire, oui, évidemment, le premier ministre là, va devoir, mais on est signataire d'un traité international. Donc, c'est pour ça qu'on se doit d'avoir un outil de dissuasion qui est crédible. C'est pour ça qu'on est en train de rééquiper les forces armées canadiennes. C'est pour ça qu'on est en train de projeter en Lettonie des équipements à la fine pointe de la technologie. Parce qu'on veut vraiment s'assurer que la Russie y pense deux fois avant de continuer à élargir ce conflit-là.
Mm-hmm.
Donc, il est essentiel que ça soit contenu. Il est essentiel que les démocraties occidentales continuent, à mes yeux, à supporter l'Ukraine dans sa lutte contre l'autoritarisme. Donc, je crois que c'est un point pivot au niveau de l'histoire. Et je vous dirais qu'il y a probablement d'autres régimes autoritaires partout à travers sur la planète, c'est-à-dire particulièrement du côté de l'Asie, qui observent de façon très, très, très étroite qu'est-ce qui se passe.
Mm-hmm.
Vous avez aussi la Chine qui a des ambitions territoriales. Vous avez la Chine qui est en train là, d'avoir des accrochages avec certains de ses voisins.
Justement un scénario catastrophe d'effet domino de l'OTAN. Bon, on peut imaginer peut-être qu'il va y avoir d'autres acteurs aussi qui vont vouloir se joindre à cette
situation. Écoutez, je souhaite sincèrement que non.
Ouais.
On souhaite que tout le monde revienne à la table.
Ouais.
On souhaite ardemment que le système de droit international soit respecté. On souhaite que les organisations multilatérales jouent le rôle qu'elles doivent jouer pour garantir la paix sur cette planète qui devient de plus en plus petite toutes les semaines, mm-hmm. n'est-ce pas? Mm. Mais il y a peut-être des gens qui sont dans un autre espace qui voient les choses d'une façon tout à fait différente.
Ouais.
Et c'est triste de voir ça, mais il y a des gens qui n'hésitent pas à recourir malheureusement à la force.
Ouais. Ouais. Depuis tout à l'heure, ça fait plusieurs fois que vous mentionnez que l'armée est... au service du gouvernement,
mm-hmm.
avec la montée de l'extrême droite un peu partout dans le monde. Évidemment, on peut penser à nos voisins du Sud. Là. Puis on dirait que j'ose croire, ou j'aimerais penser plutôt, que l'armée peut aussi être indépendante du gouvernement advenant...
Un débordement? Ou...
Ben, je sais pas, advenant justement un régime autoritaire qui commencerait à s'implanter. Tu sais, c'est quelque chose que... La démocratie, on en parle aux États-Unis, la démocratie est en danger, là, carrément. Est-ce que l'armée possède, en dernier recours, un droit de refus d'ordre? C'est-tu quelque chose qui se peut? C'est-tu un... Tu sais, je sais que c'est peut-être jamais utilisé ou je sais pas quoi. Y a-tu quelque chose qui existe, qui est comme... Je pense que c'était mon ami, justement, qui me disait... Quand quelqu'un qui est supérieur à toi te donne un ordre, est-ce que c'est vraiment votre ordre? Et si l'ordre est répété, ouais. de pouvoir... De dire je l'accepte pas ou que je sais pas si...
Ben là, la question...
Ma question est large. Et,
ouais, la question, et peut-être pas, la peut-être question a deux aussi. Volets. Ouais. La question a deux volets. Le premier volet... L'instrument militaire est un instrument qui appartient au gouvernement qui a été élu de façon légitime par le peuple.
Mm-hmm. Ouais. Ouais.
Donc, nous, lorsqu'on devient des militaires, on est au service de l'État. On est au service de nos élus. Donc, c'est la raison pour laquelle les militaires, en uniforme, évidemment, on est des citoyens, on exerce notre droit de vote. Mais... Quelqu'un comme moi, qui est commandant de l'armée canadienne, je dois m'abstenir complètement de faire des commentaires de nature politique.
Ouais. Si vos convictions personnelles doivent être mises de côté.
Absolument.
Ouais.
Voyez-vous, si je devais faire un commentaire de nature politique aujourd'hui à ce micro,
ouais.
Probablement que je dois rentrer ma lettre de démission à la fin de la journée. Mm-hmm.
Je comprends.
Comprenez-vous?
Oui.
Et ça, c'est la différence fondamentale entre des pays qui ont des difficultés et les pays qui ont du succès. Voyez-vous, ce qui tient un pays ensemble, évidemment, ce sont les gens, le peuple, le désir d'être ensemble, mais c'est aussi des institutions. Vous avez besoin d'institutions judiciaires. Vous avez besoin d'institutions politiques. Vous avez besoin d'institutions de sécurité.
Mm-hmm.
Et vous voyez parfois, dans certains pays, des armées qui vont faire des coups d'État,
mm-hmm.
Des leaders politiques, des leaders militaires, c'est-à-dire qui vont décider de changer le gouvernement. Ben, ça fait des coups d'État, ça fait des pays qui sont en train de s'écrouler, ça crée des guerres civiles.
Mm-hmm.
Donc, écoutez, la plupart des pays qui ont malheureusement des difficultés à offrir des services à leurs citoyens ou à veiller à leurs concitoyens, ce sont tous ce genre de pays-là. Là. Donc, dans une démocratie occidentale, l'instrument militaire appartient au gouvernement et le jour où quelqu'un en uniforme n'est pas en accord avec les politiques du ouais. gouvernement, vous n'avez pas d'autre choix que de quitter.
Mm-hmm. C'est ça la seule option.
Ce sont les attentes.
Ouais.
Et puis, mais c'est aussi au même moment notre force.
Ouais.
Le fait que l'instrument militaire est toujours subjugué
ouais.
au leadership politique, ben ça, c'est la chose que tous les régimes, comment dire, démocratiques occidentaux partagent.
Ouais.
C'est notre stabilité politique, c'est la stabilité en termes de sécurité, c'est la stabilité en termes d'économie, voyez-vous. C'est souvent ce genre de choses-là qui est la distinction entre avoir un État qui est failli, un État qui est en train d'imploser, versus un État qui a du succès.
Mm-hmm. Ouais.
Donc, nous, le politique, c'est quelque chose dont on s'abstient complètement. On ouais. se doit... Ouais. Nous, on offre des conseils, ouais. n'est-ce pas? Lorsque le chef d'État-major de la Défense s'assoit avec le ministre, ou parfois j'ai l'opportunité d'avoir des engagements avec le ministre, c'est derrière porte close.
Ouais.
Et on présente au ministre, et dans le cas du chef d'État-major, au premier ministre, des
recommandations.
Options. Nous, c'est des options. On présente des options avec des avantages, des désavantages, mais à la fin de la journée, c'est une décision qui appartient à nos élus, ouais. comme il se doit.
Mais
maintenant,
donc,
vous parliez tantôt, si je peux me permettre, de refuser de faire un ordre.
Ouais.
Mm-hmm.
Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible. Je m'explique. Si vous êtes un colonel, un sergent, qu'importe, si quelqu'un vous donne un ordre qui est illégitime, un ordre qui est de nature criminelle,
mm-hmm.
vous avez la responsabilité morale de refuser d'exécuter l'ordre. Par exemple, si, mettons, vous êtes dans une mission et qu'il y a des civils qui ne sont pas une menace pour vous, et que quelqu'un vous dit vous allez tirer ces gens-là, qui ne sont pas une menace, c'est un ordre illégitime, c'est un ordre illégal. Donc, les subalternes ont la responsabilité morale et légale de dire non, c'est un ordre illégal. Et vous savez, on a une responsabilité qui est énorme entre nos mains. On a la responsabilité d'appliquer les effets militaires. On a le droit, au nom de l'État, de tuer des gens. Donc, c'est un droit qui est régi par le droit international. C'est pour ça que le tout doit toujours demeurer légal. Lorsque j'étais en Afghanistan en 2009, avant de faire des opérations ou avant d'engager des cibles, j'avais constamment à mes côtés mon commandant adjoint, mon adjudant-chef, mon avocate, et j'avais souvent des techniciens en imagerie qui me disaient « oui ». Vous savez, nous, on va utiliser la force lorsqu'il y a un acte hostile à notre endroit.
D'abord.
Ouais. D'abord. Si quelqu'un ne fait pas preuve, d'hostilité à notre endroit, ou il ne démontre pas une intention hostile, on a zéro autorité d'avoir un combat ou de les engager, n'est-ce pas? Donc, on se doit toujours d'appliquer la force à l'intérieur du cadre légal de l'emploi de la force. Ouais. Il y a des paramètres qui sont très, 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 très précis. Et on est toujours conseillé et avisé dans ces circonstances-là.
Je t'ai entendu dans une entrevue que, tu sais, en Afghanistan, c'était une guerre qui était difficile, qui était violente. Tu sais, vous avez perdu des collègues là-bas. Comment qu'on revient de ça? Comment qu'on continue à faire notre travail quand on a vécu l'horreur comme ça? Comment qu'on trouve du sens dans l'idée que... Que soi-même ou d'autres auraient pu et ont perdu la vie pour servir. C'est un engagement qui est ultime, qui est total. Ouais. C'est, comment qu'on trouve du sens là-dedans?
Écoutez, dans le groupement tactique, on était plus de 1000 personnes. On était tout près de 1200 personnes. Je vous dirais que vous avez probablement 1200 nuances.
Oui.
Ouais.
On a tous vécu ça d'une manière différente. On en est tous ressortis un peu là, blessés à différents niveaux. Lorsqu'on a été déployé là-bas, évidemment, c'était le désir du gouvernement de nous aider là-bas. Lorsque nous étions à Kandahar, à l'été 2009, nous étions vraiment dans un état d'esprit où on voulait aider la population local. Vous savez, il y avait le gouvernement afghan, il y avait les gouvernements régionaux, il y avait les talibans. Donc, tout le monde essayait de se disputer le prix. Le prix étant le support ou d'être en mesure d'imposer sa force contre la population locale. On a vraiment aidé les Afghans. Il y a des Afghans qui désiraient rien d'autre que de vivre en paix.
Ouais.
Et puis, on a fait au meilleur de nos capacités avec les outils qui étaient à notre disposition. On a perdu des camarades. On a tous été touchés par ça. Moi, j'ai des frères d'armes auxquels je pense constamment. Ils ont perdu la vie en 2009, mais ils sont toujours présents dans mes pensées constamment, leur famille. Parce qu'on est tous sortis un peu meurtris à différents niveaux de ça. Mais on était animés d'un désir d'aider la population locale. Et puis, malheureusement, bon, les talibans ont repris leur main de fer sur cette société. Donc, ce que je vous dirais, par contre, c'est que les nations, les peuples, les communautés sont le reflet de leur propre culture. Et puis, amener du changement au sein d'une société, c'est une entreprise à long terme. même dans nos propres sociétés, hein, le changement, l'être humain est un animal d'habitude. Hein, on aime ça quand c'est toujours bien encadré, etc. Le changement va toujours inquiéter les gens. C'est normal. C'est une réaction humaine. Mais si vous voulez amener des changements qui vont prendre racine au sein d'une société étrangère, d'une culture étrangère, à l'autre bout du monde, c'est un travail pendant lequel vous devez accompagner la nation hôte, je vous dirais, pour une période de 20, 25, 30 ans. On ne peut pas demander à certains pays d'adopter des institutions nationales qui sont à l'image des nôtres. Parce que même nous, nos propres institutions, c'était une lente évolution au fil de décennies, voire là, de siècles.
Ouais.
Les démocraties occidentales aujourd'hui ont des institutions politiques relativement stables, mais la démocratie américaine est passée à travers une guerre civile. La démocratie française est passée à travers la Révolution française. Donc,
c'est un peu un réflexe colonial aussi de dire on va imposer notre manière de fonctionner.
Faites comme, nous,
faites comme nous autres, on a tout compris.
Et voilà. Et il faut qu'on se garde d'avoir ce genre de réaction-là. Vous savez, il y a une démocratie canadienne, il y a une forme de démocratie américaine, il y a une démocratie avec une saveur un peu différente en Grande-Bretagne, en France, etc. Les institutions doivent représenter la population locale. Donc, c'est là que nous, on doit accompagner, épauler, appuyer, mais faire preuve de ce qu'on appelle aussi la patience stratégique. Et qu'est-ce que la patience stratégique? C'est d'être disposé à accompagner X, Y, Z pendant une longue période de temps, dans ce cheminement-là. Mais la patience stratégique, dans notre société contemporaine aujourd'hui, on veut tout maintenant. On est un peu dans les antipodes, hein? On vit dans une société aujourd'hui où on veut gratifier nos besoins immédiatement. Je n'ai pas d'argent, mais je vais avoir ce truc-là, je vais le mettre sur la carte de crédit, je le consomme maintenant. On le payera demain, n'est-ce pas? Donc, comment dire, servir nos besoins immédiats rapidement, parce qu'on est dans une société qui est riche, une société qui a des besoins économiques, qui est en mesure de générer de la richesse économique. Mais on a tendance à oublier qu'il y a peut-être une majeure partie des gens qui vivent sur cette planète qui n'ont pas ce luxe-là. Donc, est-ce qu'on a de la patience stratégique? Est-on prêt à accompagner à moyen et à long terme? C'est possible. Je veux dire, l'Allemagne a été reconstruite. Et l'Allemagne, une fois qu'ils se sont départis du nazisme, voyez-vous, 25, 30, 40 ans plus tard, vous avez une économie qui est florissante, un fleuron de technologie, ce sont des alliés, on les adore, mais la communauté s'est investie.
Ouais.
Donc, il faut voir les choses sur le long terme. La pensée stratégique, il faut regarder l'histoire. Il ne faut pas se bercer d'illusions en s'imaginant qu'on peut amener des changements immédiats en arrivant quelque part pendant un déploiement. L'être humain ne fonctionne pas comme ça.
Je parlais de réflexes colonialistes. Vous êtes membre des Premières Nations, c'est de Wendake. L'histoire entre les Premières Nations et le Canada est compliquée quand même et difficile parfois. Comment que vous réconciliez, en fait, vous, cette identité-là avec le fait de servir le Canada? Ouais.
C'est une question intéressante. On pourrait en parler longuement. Mais, vous savez, au début de la Nouvelle-France, quand les Européens sont arrivés, les Français, etc., les communautés autochtones sont entrées dans une chaîne d'alliances avec les autorités françaises. C'était des relations là, d'un peuple à l'autre. Donc, les Hurons, les Mohawks, les alliés de la couronne française. D'ailleurs, je vous dirais que probablement la raison pour laquelle la Nouvelle-France a été en mesure de perdurer un siècle et demi, c'est justement parce que les Français ont été très habiles à gérer leurs alliances avec les peuples autochtones. Alors que du côté anglais, c'était plus « on prend le terrain, tassez-vous ».
OK.
Donc, l'histoire coloniale américaine, l'histoire coloniale canadienne, que ce soit le haut, le bas Canada ou les 13 colonies, qu'importe, il y a des nuances importantes. seulement qu'au Québec, là, on a des dizaines et des dizaines de réserves indiennes, n'est-ce pas? De communautés autochtones. Si vous partez du Maine et vous descendez jusqu'en Floride, commencez à calculer la quantité. Il n'y en a pas tant que ça du côté américain, n'est-ce pas? Donc, il y a toujours eu une alliance entre les communautés autochtones de la vallée du Saint-Laurent et puis les autorités coloniales. Il y a eu la conquête anglaise. Quelle a été la première chose que les Anglais ont fait lorsque Montréal a capitulé? C'est qu'ils ont renouvelé l'alliance avec les peuples autochtones de la Nouvelle-France immédiatement. Et après, ils ont géré le cas des Français.
Mm-hmm.
Parce qu'à l'époque, les communautés autochtones jouent encore un rôle économique relativement important. Il y avait encore la traite des fourrures, etc. Il y avait le rôle militaire. Vous savez, dans les communautés autochtones de la vallée du Saint-Laurent, quand vous étiez un homme, vous étiez un guerrier. Vous étiez un guerrier parce que dans nos sociétés, il y avait des guerriers, puis en fait, il y avait deux genres de chefs. Avant l'arrivée de la loi sur les Indiens, dans ma communauté, il y avait le chef des guerriers, puis il y avait le chef du village. Et c'est pareil du côté des Mohawks. Donc, les femmes, les mères d'Atlan, élisaient souvent le chef du village, alors que les guerriers, entre eux, allaient élire le chef de guerre. Et les guerriers participaient toujours aux combats coloniaux, tout le temps. Que ce soit un support avec l'armée française ou par la suite avec l'armée anglaise. Donc, conquête de la Nouvelle-France, on renouvelle l'alliance avec les communautés autochtones, on signe le traité, etc. Et après ça, révolution américaine, les Britanniques se retranchent sur le Canada, n'est-ce pas? Il y avait des gens du côté des 13 colonies américaines qui pensaient que les Canadiens français allaient se soulever contre la couronne. Mm-hmm. Ce qui n'est pas arrivé.
Mm-hmm.
Parce que les Britanniques se devaient de garder un pied à terre important en Amérique du Nord. Le seul pied à terre qui leur restait, c'était maintenant le Canada. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des alliances, je vous dirais, avec l'Église catholique romaine, avec le leadership français. C'est pour ça que la langue française, le code civil, etc., ça a été préservé dans les institutions du Bas-Canada. Il y a eu des deals qui ont été faits. C'était essentiel pour les Britanniques. Et ces deals-là que les communautés autochtones sont demeurées. Pendant la guerre de 1812, vous avez des guerriers de toutes les communautés autochtones de la vallée du Saint-Laurent, du côté de Wendake, Odanak, Woolinak, Ganawagé. Ces guerriers-là se sont tous battus contre les Américains qui tentaient d'envahir le Canada. Et là est arrivé un phénomène où, avec des vagues d'immigration importantes, que ce soit les loyalistes qui venaient des États-Unis pour s'installer dans les cantons de l'Est ou du côté du Haut-Canada, ou que ce soit à travers l'immigration britannique qui venait des îles britanniques, là, la population du Canada a commencé à grandir. Et je vous dirais qu'autour du milieu du 19e siècle, c'est là que nos communautés autochtones ont perdu leur influence militaire, parce que la menace d'invasion américaine est disparue.
Mm-hmm.
Fait qu'on n'était plus utile d'un point de vue militaire.
Mm-hmm.
Notre influence économique a commencé à diminuer énormément. Et là, il y a une explosion démographique. Donc, c'était la marginalisation militaire, économique et politique. Et après est arrivée la loi sur les Indiens.
Mm-hmm.
Donc, c'est plus compliqué que les gens peuvent le penser, mais cet esprit d'aider le gouvernement local, le gouvernement colonial, de faire partie de la défense du Canada, ça l'a perduré. Pendant la Première Guerre mondiale, vous avez des milliers d'Autochtones qui ont servi. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des milliers d'Autochtones qui ont servi. Mais ça s'inscrivait
Dans la continuité
historique de ce que nos ancêtres avaient toujours fait. Mm-hmm. Fait qu'il ne faut pas faire trop d'amalgame, je vous dirais, c'est beaucoup plus nuancé.
Donc vous vous inscrivez dans cette histoire-là, finalement, d'alliance.
Absolument, absolument. Puis écoutez, moi, c'est là que le côté historien, le côté anthropologie va toujours émerger.
On voit que le prof d'histoire n'est pas très loin.
il n'est pas très loin sous la surface, absolument. Ouais. Mais voyez-vous, c'est ça, l'être humain, hein? Si on veut savoir où est-ce qu'on va, on doit savoir d'où on vient.
Absolument.
Et puis, d'ailleurs, écoutez, on parle d'histoire, d'anthropologie. Le fait que j'ai étudié dans ces deux disciplines-là, ça m'a été tellement utile pendant toute ma carrière.
Mm-hmm.
Vous savez, j'arrive à Kandahar. Et puis, il y a le gouvernement central à Kaboul. Il y a le gouverneur de la province de Kandahar. Et là, il y a des districts.
Mm-hmm.
Hein? Il y a les gouverneurs de districts. Mais eux, ça, ils sont nommés par le gouvernement central. Mais c'est qui vraiment qui tire les ficelles? Fait que moi, mon instinct, c'était toujours, c'est qui le chef tribal? Parce que le chef tribal, c'est pas nécessairement le chef politique qui a été nommé par Kaboul. Donc, il y a celui qu'on voit tous en surface, mais qui a réellement de l'influence dans la communauté? Parce que les Pashtuns, c'est pas une tribu, c'est une confédération. Et il y avait l'ancien président Karzai qui faisait partie d'une des tribus de la Confédération qui a toujours dominé cette confédération-là, Pashtun, pendant des siècles. Mais il y a des gens qui étaient marginalisés, il y avait des tribus qui étaient marginalisées dans cette confédération-là. Et c'est souvent eux qui alimentaient l'insurrection. Donc, si on se serait limité strictement au volet politique, on aurait manqué une grosse
partie. On aurait mal compris l'enjeu. Là.
Et voilà.
Puis c'est votre bagage d'historien ou c'est votre bagage en tant qu'Autochtone qui a fait réfléchir?
En fait, c'est les deux. Ouais. Parce que, tu sais, oui, c'est certain qu'on a le conseil de bande, on a la loi sur les Indiens, mais je sais également que, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas la manière dont le leadership dans ma communauté était nommé.
Ouais.
On avait nos propres us et coutumes, on avait les chefs de guerre, on avait les chefs du village. J'ai un de mes ancêtres, Michel Sioui, qui a été longtemps le chef des guerriers à Wendake. La loi sur les Indiens est venue effacer ça, mais on a toujours gardé ce souvenir-là de nos anciennes institutions politiques.
Ouais.
Donc, encore une fois, il ne faut pas se limiter à la surface, il faut gratter, il faut enlever un peu la peinture, le vernis, là, pour essayer de comprendre la complexité. Fait que ça m'a été vraiment, je vous dirais, très, très utile, d'essayer de comprendre un peu cet environnement-là tribal, mais aussi apprécier la différence culturelle. Apprécier la différence culturelle. Les différences chez l'être humain, moi, comme anthropologue, je vois ça comme une richesse.
Tout à fait.
C'est de la curiosité. Je vais vous donner une anecdote. Je suis dans le West Bank, en Israël, et je suis en train de jaser avec un leader palestinien là-bas, qui est un conseiller du président. Et on jase de tout et de rien. C'est un homme à l'époque qui devait avoir probablement 75-80 ans. Bon, puis il avait accompagné M. Arafat là, dans toutes ses luttes, etc. Et on commence à jaser. Là, bon. Et là, il me posait des questions sur comment qu'on vivait chez nous. Puis là, je lui expliquais qu'autrefois, dans ma communauté, là, peut-être 75 ans, une centaine d'années, quand on tuait un orignal, bon, il n'y a rien qui était perdu. Les gens allaient manger la langue. Les gens allaient manger le cerveau. J'y expliquais ça.
Ouais.
Bon, je disais, aujourd'hui, nous, on va à chasse à l'orignal, etc. Les abats, comme on les appelle, là, on n'a pas grandi avec ça.
Ouais. Ouais.
Et là, il commence à m'expliquer. Son nom était Hadj Ismaël. Il commence à m'expliquer, ouais, mais nous, on fait pareil avec les moutons. Quand j'étais jeune, il n'y a rien qui se perdait dans le mouton, mais aujourd'hui, bon. Et là, il me relève, il se lève, il me regarde, il dit, on doit être des cousins. on venait de deux univers complètement différents.
Mais l'histoire partager se rassemblait quelque chose, quand même.
Et voilà. Mais, ouais. Donc, tu sais, enlever les masques, enlever les gants, s'asseoir, jaser, discuter avec quelqu'un qui vient d'une culture différente, qui a une langue différente, qui vit dans un environnement complètement différent, mais aussi quelqu'un avec lequel il est agréable de jaser. Donc, cette curiosité-là à établir des ponts avec les gens, ça m'a toujours un peu animé. Je trouve que ça a été très utile.
Mais on est tous des humains, au final. On partage tous des choses en commun. Oui,
exact. Et voyez-vous, mon épouse, moi, c'est une Innu. On les appelait autrefois les montagnais, là. Donc, c'est une Innu. Mais Innu, dans la langue Innu, ça veut dire humain. Et Joséphine Bacon, la poétesse, en a parlé en long et en large. C'est la tante de mon épouse. Donc, c'est ma tante par alliance.
Wow.
Mais c'est ça, donc l'humain. C'est ça qu'on est, des êtres humains. On est tous des êtres humains. Et puis, même, c'est pour ça que dans les communautés autochtones, on a toujours eu l'adoption qui a toujours été très, très omniprésente. On parlait des guerres coloniales autrefois. Bon. Vous savez, un excellent film qui était fait il y a plusieurs années, Le Danse avec les loups, avec M. Costner. Vous vous souvenez, dans le film, il y a cette dame-là qui avait été adoptée quand elle était... Bien, la même chose s'est produite dans nos communautés. On le voit à travers là, les archives. Pendant les guerres coloniales, les guerriers des communautés autochtones de la vallée du Saint-Laurent, ils allaient faire des raids du côté des colonies américaines. Et parfois, ils ramenaient des enfants. Donc, l'attaque était faite, les gens ont été tués, etc. Mais les enfants, souvent, ils les ramenaient, puis ils les adoptaient, puis ils finissaient par devenir des membres de la communauté. Les communautés autochtones faisaient ça entre elles, puis ils faisaient ça également avec des gens là, de l'autre côté, si on veut.
Ouais.
Donc, c'est ça. Comprendre les gens, l'être humain, aller au-delà des différences. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent comme être humain que de choses qui nous séparent, je pense.
Tout à fait.
Vas-y.
Ben, j'allais dire, j'ai cru comprendre que l'heure de la retraite sonnait. À quoi ça ressemble, la retraite pour vous?
Écoutez...
Est-ce que vous avez un projet de long voyage?
Ben, premièrement, moi, être franc avec vous, j'aurais jamais pensé demeurer aussi longtemps. Je vous disais d'entrée de jeu que j'avais eu cette discussion-là avec mon épouse, puis je voulais faire 20 ans. Puis après ça, j'ai pris ça par bloc de 5 ans. Je m'étais dit, bon, on va rediscuter quand je pogne 25 ans de service.
Ouais.
Ah, on va faire un autre 5 ans.
Mm-hmm.
Bon, et voilà. Donc, c'est une décision...
On est rendu à 30, 35?
Dans la régulière, ça me fait 33 ans environ, mais j'avais fait 4 ans dans la milice. Quand fait que je suis rentré en 88. Là, donc, c'est plusieurs années. C'est plusieurs années. T'sais. Puis, mais on avait pris la décision que ça serait 2004, il y a maintenant 3 ans. C'est une décision familiale.
Ouais.
Donc, pour nous, la retraite...
Ce serait 2024.
Oui, donc c'est cet été. Ouais, c'est ça. On avait pris cette décision-là il y a 3 ans. On m'a demandé si je ne voulais pas étirer ça un peu, mais j'ai discuté avec Lynn et puis c'est 2024.
Ce qu'on avait dit.
On garde le plan initial. mais je ne vous cacherai pas que... Écoutez, ça va être... tant d'années que ma vie est régimentée, il y a tout l'encadrement, la tenue, les uniformes, le Royal 22e. Bon, voyez-vous, on a tout notre environnement, notre famille, c'est ma famille militaire.
Il y a un deuil à faire.
Il y a une espèce de deuil à faire. Puis je vous dirais qu'aujourd'hui, au sein des forces canadiennes, on est rendu pas mal mieux qu'on l'était autrefois dans la question de la transition.
Ouais.
On est appuyé, on est épaulé. Anciens combattants Canada, mais les forces canadiennes ont des programmes d'aide à la transition. Fait que oui, qu'est-ce que je vais faire? absolument, c'est une grande question. Mais écoutez, on va faire la navette entre Wendake, ma communauté, ce qu'on appelait autrefois le village Huron. On va faire la navette entre Ottawa et Wendake. Mon garçon veut rester dans la région d'Ottawa. Ma fille revient aussi dans la région d'Ottawa probablement cet été. Donc, on va se promener entre les deux. Un pied à terre à Ottawa, un pied à terre à Wendake. Je vais renouer avec ma famille biologique. Là,
C'est important pour vous de retourner dans la communauté.
Ah non, absolument. Écoutez, c'est là que je suis né. Je suis né à Wendake. J'ai grandi là. En fait, je suis le seul membre de ma famille qui a quitté.
Okay.
Mes deux sœurs puis mon frère travaillent toujours dans la communauté aujourd'hui. Mes cousins, tout le monde est là. Je suis le seul qui est parti.
Mm-hmm.
Donc, heureux de renouer auprès des miens, revoir mes gens. Parce que je ne vous cacherai pas que récemment, malheureusement, je suis allé à plusieurs funérailles des gens là, avec qui j'ai grandi, là, les amis de mes parents, etc. Je trouve ça triste. Là. Mais c'est le temps de retourner, je vous dirais, un peu à la maison. Une pause. Ouais. Je vous dirais, 5-6 mois de pause. Pas faire grand-chose, à part qu'aller dans le bois, à la chasse, à la pêche.
Ouais. Ouais.
Vous savez...
Puis après, la politique.
Oh là là, je le sais pas, honnêtement. Je vous cacherai pas qu'il y a des gens qui m'en parlent.
C'est vrai,
mais j'ai vraiment besoin de
respirer, de faire respirer, une pause, une coupure complète.
Non, exactement. J'ai besoin de reposer, de retourner en forêt. Vous savez, quand je vais en chasse avec ma soeur et mes neveux, on part d'Ottawa, on remplit le pick-up, on arrive à Wendake, on monte dans le bois, on monte le camp. On va à chasse 5 jours, 6 jours, on revient. Là, j'ai hâte de savoir quand est-ce que je rentre, mais pas savoir quand est-ce que je quitte la forêt.
Mm-hmm.
Même chose lorsque je vais à pêche, c'est toujours sur un horaire. Donc, j'ai besoin de renouer avec la terre-mère, j'ai besoin de me ressourcer. Mon épouse, elle vient de la communauté Innu de Pessamit sur la Côte-Nord, communauté que j'adore. Puis j'ai des amis depuis toujours là-bas. Donc, être en mesure d'aller en forêt, pas de stress, ça va me faire le plus grand bien. Et par la suite, écoutez, on verra. Peut-être l'enseignement.
Ouais, ben oui.
Peut-être commencer un doctorat.
Ce fameux doctorat.
Que, ouais, peut-être. Ouais, celui que j'ai remis au calendrier grec il y a déjà quasiment 35 ans. Ou peut-être écrire.
Ouais.
Mais j'aimerais aussi passer mes connaissances, mon savoir. Vous savez, quand j'étais jeune, je grandissais dans la communauté, j'ai passé beaucoup de temps avec les aînés. Donc, il y a des gens qui m'ont appris des choses extraordinaires. Donc, les repartager avec les gens de ma communauté. On verra où tout ça va nous mener.
Mais, oui.
Mais on est prêt. La famille Paul est maintenant dans cet espace-là. Et puis, on regarde ça là, d'un très bon œil. Puis, vous savez quoi? L'armée, c'est une grosse machine. Les forces canadiennes, c'est une grosse machine. Il faut que le leadership se renouvelle. Et je regarde en arrière de moi les jeunes hommes et les jeunes femmes qui sont en train de monter. Là. On a des gens de grande qualité. On a un capital humain au Canada, je pense, là, qui est extraordinaire. Et ça, c'est une autre chose qu'on prend pour acquis. On a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont extraordinaires. Et puis,
donc, vous laissez ça en bonne main.
Absolument. Vous savez, là, je suis vraiment pas un de ceux qui pensent là. Vous savez, les cimetières sont pleins de gens indispensables. Les cimetières sont pleins de gens qui ne pouvaient pas être remplacés. Fait que c'est le sentiment du devoir accompli avec toutes les équipes avec lesquelles j'ai eu le privilège de travailler. J'ai eu un support extraordinaire pendant ma carrière et les jeunes qui nous suivent vont faire une meilleure job que nous autres, puis on va aller sur les lignes de côté, puis on va les encourager.
Bonne fin de carrière et bonne retraite. Merci beaucoup.
Ouais, merci beaucoup.
Merci infiniment pour l'opportunité, c'est bien apprécié.